Radio Bac 18e, dans notre deuxième partie, tu avais prévu, Michel, dans notre sommaire, de parler alors des travaux qui ont lieu pour assainir les eaux de la Robine.
Oui.
Et on remarque tout de suite qu'on reste dans une espèce de micmac de répartition entre ville et agglo qui n'est pas clair du tout et qui ne facilite pas les opérations.
Qui suscite en tout cas, comme je l'avais signalé dans une de mes dernières chroniques, une guerre des panneaux municipaux et de l'agglo, puisque sur ce chantier en question qui se déroule à hauteur du pont des Marchands, en fait c'est sous le pont des Marchands qu'il y a des fuites. Hein, des fuites dans le canal,
Des eaux usées,
des eaux usées, pluviales, et d'assainissement. Je reviendrai sur cette
les eaux usées et les eaux pluviales.
Et j'avais fait observer dans cette chronique que ces panneaux très disgracieux qui font pratiquement 2 mètres de haut, l'un au tout début des barques et l'autre au tout début du cours Mirabeau, en indiquant que la commune mettait tant d'argent pour se faire et puis était esthétiquement déplacé, si je puis dire, pour les panneaux en question, car en plein centre, en plein cœur historique, pour des touristes qui se battent dans Narbonne, ça faisait quand même bizarre.
En tout cas, ces travaux ont lieu. Une petite parenthèse, j'ai reçu un appel téléphonique de Monsieur Parra, Éric Parra, qui est adjoint au maire chargé de ce dossier, notamment du port fluvial, qui fait remarquer justement, parce que paraît-il, il avait été, si tu me permets l'expression, allumé par Michel Santo dans cette même émission il y a quelque temps, il fait remarquer que, les travaux ont bien lieu, qu'il a réussi à se mettre d'accord avec l'agglo, ce qui était indispensable, et que c'est bien une de ses délégations, une de ses responsabilités, celle du port fluvial de Narbonne.
Tu vois, Jean-Claude, très franchement, je n'ai pas le souvenir d'avoir allumé, comme tu dis, Éric Parra.
Lui, je savais, en avoir le souvenir.
Autant je me souviens, je sais parfaitement bien qu'il s'occupe avec talent, si j'en crois ce que m'en disent les commerçants narbonnais.
Alors, du commerce.
Mais j'ignorais qu'il s'occupait des égouts aussi.
Port fluvial.
Mais là, il s'agit d'assainissement des eaux usées, pluviales. Bon.
Ce qui fait qu'il est, c'est lui qui apparemment gère ce dossier.
Alors, j'en profite pour lui dire que je suis désolé de cet allumage dont je ne me souviens pas et que je ne manquerai pas à l'occasion, de rappeler régulièrement qu'il est à la fois le délégué au commerce, mais aussi au port fluvial, s'occupant entre autres de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de Narbonne.
Voilà. Alors, ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs.
Alors, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'au-delà de cette petite anecdote, et au-delà de la querelle de la bataille des panneaux entre ville de Narbonne et communauté d'agglo, c'est que là aussi, pour faire le lien avec ce que j'ai dit précédemment à propos des archives,
nous sommes dans un
domaine de compétences qui est particulièrement brouillé.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Moins pour les techniciens ou pour les gens informés comme je le suis. Informé, j'entends. Technicien, il y a longtemps que je ne le suis plus de la chose. À savoir que dans un même tuyau, si je puis dire, dans un même tuyau, deux institutions gèrent deux compétences différentes.
Donc, les eaux pluviales.
Les eaux pluviales relèvent de la compétence de la commune.
C'est-à-dire des eaux
qui
sont censées ne pas être polluées par les déchets.
Les eaux pluviales, comme ça, on le dit, les eaux qui tombent.
Et les
eaux usées, qui, elles, relèvent de la compétence.
Les égouts,
qui relèvent de la compétence de l'agglo. Donc on a. Imaginons simplement la situation suivante. C'est une hypothèse purement théorique, mais si ces eaux pluviales et ces eaux usées avaient été gérées par une seule institution, comme l'agglo par exemple, qui a l'espèce, me semble-t-il, et le bon niveau de gestion de ce genre de compétences. À tout le moins, on n'aurait pas eu cette guerre absurde des panneaux.
Et ces retards.
Par exemple.
Et ces retards à l'allumage.
Pour revenir, j'ai l'expression que tu as rapporté de M. Parra, et qui résulte du fait de ce retard, de discussions technico-politiques entre M. Parra et son homologue de l'agglo, les services techniques de la ville,
et leurs homologues, etc.
Ce qui veut dire, très rapidement, que rien que dans la préparation de ces travaux, du fait même de cette répartition des compétences absurde d'un point de vue gestionnaire. Hein. On a perdu du temps et forcément de l'argent. Mmh. Bon, tout le monde sait que quand on consacre trop de temps effectivement à préparer une décision, ben, ça en coûte, ça mobilise des services, ça mobilise une intelligence, ça mobilise, bref, etc. Donc tout ça pour dire, et M. Parra a eu bien raison effectivement d'insister là-dessus, que on est dans une situation là aussi. Comme dans d'autres domaines, je pense au théâtre, le parvis géré par la ville,
et le théâtre géré par l'agglo,
totalement
ubuesque, roi chez nous,
source de dysfonctionnement en fait, et de coûts en fait, pour le contribuable qui deviennent de plus en plus inacceptables, et en tout cas incompréhensibles du point de vue de celui qui effectivement veut avoir une idée sur qui fait quoi, avec quelle qualité de service rendu à la fin.
Oui, voilà. Bon, ben, on reviendra là-dessus parce que M. Silbermann, c'est sûr, a une opinion là-dessus, mais dans une troisième partie, on reviendra sur ce domaine. Alors, Michel, dans une deuxième partie de notre deuxième partie, tu avais fait ou tu envisages un billet qui serait intitulé « Le prix de la démocratie à Périgueux-de-Mer ». Oui. Alors que se passe-t-il donc
dans la foulée d'ailleurs,
cette commune,
dans la foulée de celui que j'avais fait sur après avoir rencontré nos invités de ce matin. À l'occasion d'un café dans ce bistrot de mon quartier, qui m'a gentiment été proposé d'ailleurs par les deux candidats en fait aux futures législatives. Contrairement, je me suis dit bon voilà quand même, et je n'ai pas pu aller à la conférence de presse. Ils m'y avaient invité et ils ont fait l'effort de venir près de chez moi pour m'informer de leur projet fait de politique, qui est celui de Mme Manchot,
mais
qui
aussi. Ouais. Bon. Alors, entrons dans le vif du sujet. Ça concerne M. Silbermann et Mme Sanchez. Si et
bien sûr, puisqu'effectivement, c'est pour ça que je me permets de faire cette petite parenthèse introductive, en fait, à ce qui va suivre. J'entends souvent, pour ne pas dire toujours dans la bouche de certains élus, qui jouissent de certains privilèges, disons, financiers,
pouvoir, en tout cas,
financiers, que leurs privilèges financiers seraient le prix payé par la démocratie. En d'autres termes, en fait, par exemple, le financement de d'assistants parlementaires et leurs coûts.
Oui.
Pour le contribuable,
sujet ô combien
serait le prix payé par la démocratie dans laquelle nous vivons. Bon, j'entends souvent à des niveaux très divers, mais enfin, j'entends souvent ça.
Ça me paraît un charabia un petit peu fumeux.
Oui, en fait, oui. Ouais. Sauf que là, à l'espèce, j'apprends que la mairesse de Périac, sollicitée d'ailleurs par nos invités à l'espèce,
Pour faire une réunion publique. C'est bien ça, Monsieur Silbermann, pour une réunion publique.
Absolument. Pour faire une réunion publique afin d'informer ceux qui souhaiteraient participer à cette réunion, non seulement les convaincus, mais ceux qui pourraient l'être éventuellement, propose certes tout à fait démocratiquement
de recevoir
en fait Monsieur Silbermann, sa suppléante et ses invités dans cette salle. Sauf qu'au passage, la ligne fait une facture de 1500 euros.
Oui, alors c'est ça le prix de la démocratie.
1500
alors.
Euros, ce qui serait le prix de la démocratie, pour une salle de 100 places, si j'ai bonne mémoire. Ce qui revient effectivement à un ticket moyen de 15 euros par personne. Mmh. Jean-Claude.
Oui, on peut pas dire.
Quand je vais assez régulièrement au cinéma du théâtre, je ne paie pas ce prix-là.
Oui. Bon, c'est subventionné, alors, certes, d'accord.
Certes, mais nos deux invités sont des gens de talent, quoi. Je doute pas une seule seconde sur la qualité du spectacle.
Ils valent les 15 euros quand on va les voir, c'est ça.
Mais quand même, donc, je trouve cela, non seulement inélégant, mais surtout une barrière de fait, à la démocratie, en fait, et à l'information que l'on doit, effectivement, aux électeurs de manière générale. D'autant que cette salle, comme tout le monde le sait, comme toutes les salles municipales, elle est déjà payée par les contribuables, effectivement, de Narbonne et d'ailleurs.
Voilà,
donc voilà, je fais cette petite remarque-là, m'adressant à Madame Goury, que je connais un peu, pour dire, là quand même, Madame la mairesse, vous allez fort, et c'est pas du tout sympa pour nos invités de ce matin.
Voilà,
et de manière générale, pour tous ceux qui souhaitent un jour utiliser cette salle pour faire, effectivement, de l'information sur leur campagne. Dans le Narbonnais, très bientôt.
Un geste qui manque véritablement d'esprit démocratique, il faut le souligner, et tu as raison de le faire. Et on marque une deuxième pause, après laquelle, je le rappelle, nous allons retrouver donc nos deux invités, Jean-Hugues Silbermann et Nadine Sanchez.